Quelques petites nouvelles de sport avant de débuter notre prochain sujet. Simon Keane et David Lemieux ont remporté leurs combats respectifs hier soir du côté du Mexique. Au championnat mondial de hockey, le Canada a battu les États-Unis en demi-finale aujourd'hui 4-2 et affrontera en finale soit la Finlande ou l'Allemagne. Et Charles Leclerc, sur Ferrari ce matin, est allé chercher la pole position. On va en parler avec Philippe Lagu un peu plus tard. Mais pour le moment, c'est le moment de discuter avec la docteure Christiane Ayotte, directrice du laboratoire de contrôle du dopage à l'Institut national de recherche scientifique. Docteur Ayotte, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup de nous donner quelques instants de votre temps. On sait que vous êtes extrêmement occupé, mais une sommité comme vous, il n'y a pas grand monde qui peut nous expliquer exactement les choses comme elles le sont véritablement. Je voulais absolument discuter avec vous du dossier de Jean Pascal, puisque, bon, on le sait tous, là, depuis à peu près une semaine, il a échoué un test antidopage où il a testé positif pour trois stéroïdes, si je comprends bien. Et là, ben, la nouvelle vient de tomber, il y a de ça quelques jours, qu'il a aussi testé positif à l'EPO. Première réaction de votre part lorsque vous prenez conscience de ces informations?
Écoutez, la première chose, là, c'est que j'ai pas plus d'informations directes que vous en avez. Là, c'est de l'information indirecte. Le milieu de la boxe, boxe professionnelle, a une façon de faire des tests antidopage qui est pas celle nécessairement qu'on a avec l'Agence mondiale antidopage
en quel
dans
sens,
le monde du sport olympique. Ben c'est pas géré par l'Agence mondiale antidopage, c'est géré par une agence professionnelle entre guillemets qui s'appelle la VADA, VADA, qui est aux États-Unis, basée aux États-Unis, puis qui couvre les sports de combat. Là, puis ça, il faut être volontaire là-dedans, il faut payer sa contribution. Pour ce qui est de la boxe, si vous regardez sur leur site, dans leur politique, 8 semaines avant un combat, les combattants, l'organisateur de combat, etc., va inscrire le boxeur, l'athlète, qui, à partir de ce moment-là, doit être disponible pour des contrôles antidopage. Okay. Je regarde leur liste, c'est quand même une liste qui est assez complète, et même si c'est pas une organisation qui est reconnue par l'Agence mondiale antidopage, cette organisation-là envoie ses tests dans des laboratoires américains qui sont les laboratoires que l'AMA reconnaît pour leurs tests. Okay. Donc, en gros, on peut penser que les tests, le résultat des tests, si encore là, c'est bien avéré, si c'est des résultats qui sont avérés, serait correct. Là.
Bon, écoutez, Jean Pascal a toujours été un athlète qui a défendu justement le sport propre. Il en a fait son cheval de bataille pendant des années, donc bien des gens ont été très surpris d'apprendre ces résultats. Et là, tout le monde dit que, par exemple, l'EPO, on s'injecte de l'EPO, hein, avec une seringue et tout ça. Là, la question que les gens veulent savoir, c'est est-ce qu'il y a d'autres produits qui sont légaux, qui sont des produits que les athlètes peuvent s'injecter avec une seringue, ou est-ce que véritablement, spécifiquement, ce qu'on s'injecte avec une seringue, normalement, ce sont des produits qui sont illégaux?
Oui, mais d'autant que les deux autres anabolisants concernés, là, sont la trenbolone puis la drostanolone, il y en a deux en fait. Drostanolone métabolite, c'est lié à la drostanolone. Donc, il y a deux anabolisants. Ce seraient des anabolisants qui sont injectables. Oui, il y a des produits qu'on peut, que les athlètes, il y avait bien de la mode là, sur la vitamine B, une sorte de vitamine B qui était injectable à l'époque. Il y avait une mode d'injecter aussi des anti-inflammatoires, des vitamines, les vitamines en injection. C'était comme, si ça s'injecte, c'est plus fort puis c'est mieux. Cela dit, c'est la responsabilité de l'athlète. C'est pour ça qu'on le dit puis qu'on le répète toujours. L'athlète peut pas juste être complètement déresponsabilisé de ce qui lui est suggéré et de prendre ou d'accepter de prendre les produits qui sont suggérés. Étendre le bras, c'est pas le but. Alors, écoutez, moi, je pense souvent, j'ai souvent l'analogie. Quelqu'un qui est vraiment contre, disons, l'alcool au volant, qui trouve que c'est épouvantable, mais qui, un soir, sort, il pense qu'il est correct, puis il prend le volant, puis il se fait arrêter par la police.
Oui.
Donc, c'est une, ça prend pas grand-chose. C'est un écart de jugement qui malheureusement, mais... pour des raisons de vulnérabilité, peut amener des comportements chez des athlètes qui sont, même ceux qui sont persuadés que le dopage, ça devrait pas être ça.
Des fois, j'ai l'impression, par contre, que dans certains sports, comme la boxe, qui sont un peu plus là bric-à-brac, on va se le dire, que des ligues organisées, fédérées avec justement des gens qui sont là et qui on est certain de leur validité et tout ça. Des fois, les boxeurs font confiance à des gens ne sachant pas trop exactement ce que qu'on leur donne. Ça s'est vu très souvent. Mais est-ce que vous suggéreriez à la boxe justement d'avoir quelque chose qui est un peu plus sécuritaire? Vérifiable, uniforme pour tout le monde, pour s'assurer justement que les boxeurs n'aient pas cette excuse-là de dire, ben écoutez, moi j'ai embauché quelqu'un, puis cette personne-là, malheureusement, m'a mal conseillé ou m'a injecté des produits.
Vous avez raison, puis même dans des organisations, on l'a vu dans les écuries cyclistes, là, le médecin d'équipe, certaines fois, le médecin d'équipe ou les professionnels d'équipe ne sont pas là pour la santé de l'athlète, ils sont là pour le faire fonctionner. Donc, et puis on sait aussi dans le dopage d'athlètes que l'isolement des athlètes, un athlète qui s'isole puis qui fait ce qui bricole ses trucs, c'est à risque. Mm-hmm. Donc oui, la boxe, là, sérieusement, puis les sports de combat, si on continue comme société à regarder, à approuver ces sports-là, il faut nettement augmenter la santé, la sécurité, les risques. Qui sont liés au dopage aussi, mais que c'est une violence aussi faite aux athlètes, c'est un abus là, fait aux athlètes, il y a toujours bien des limites. Donc oui, il faut encadrer mieux, oui, il faut que ça soit mieux fait. Au Québec, qu'est-ce qu'on fait avec nos boxeurs? Où sont faits les tests antidopage? Moi, je peux vous dire que c'est pas fait dans notre laboratoire, les tests antidopage dont la régie est censée s'occuper. Donc on met ça de côté un peu en se disant, ben c'est des professionnels, c'est de la boxe. Non, et ces gens-là, ces athlètes-là, ces jeunes-là méritent autant, sinon plus, parce qu'ils sont en danger, là, encore plus que des dans d'autres sports. Ils méritent encore plus qu'on prenne soin d'eux. On est pour apprécier des combats de boxe, il faut au moins qu'on le fasse de façon un peu plus décente. Là.
Parce que c'est sûr que ça surprend tout le monde de voir qu'un athlète dépenserait, je crois que c'est $500,000 pour son camp d'entraînement. Et ensuite de ça, laisse tomber une bourse d'$1,5 million pour ensuite de ça se doper et se faire prendre. C'est assez ridicule. Est-ce que dans la majorité des cas, ceux qui se font prendre, et c'est ma dernière question, c'est parce que le camouflage, entre guillemets, les substances qu'on devrait prendre pour camoufler le test positif n'ont pas fonctionné ou tout simplement, on n'a pas été très intelligent puis on n'a pas pensé à ça?
Il y a certainement, écoutez, on n'a pas les détails de ça, c'est dans les mains des gens qui sont directement impliqués. Oui. Mais il y a toujours une erreur de jugement à un moment donné, qu'on soit un athlète olympique ou un athlète professionnel, qu'on ait tout l'argent que vous voulez ou pas d'argent du tout, il y a des tests positifs régulièrement. Que ça soit dans des athlètes de baseball qui gagnent des millions par année, il y a des tests positifs. Donc, il y a toujours une erreur qui se fait et c'est tant mieux. Parce que si les tests antidopage peuvent détecter des comportements dopants, ça devient plus dissuasif. Souvent, on voit que c'est le cas, il y a des positifs, ben c'est un système qui est prévisible. Et là, il y a eu une erreur, quelque chose comme ça. Donc, il faut vraiment augmenter la cadence des tests et protéger ces athlètes-là.
Mais bien d'accord avec vous. Docteur Christiane Ayotte, merci beaucoup d'avoir été là avec nous aujourd'hui pour nous expliquer tout cela. Très apprécié.
Mais je vous en prie, bonne journée.
Merci beaucoup et bon week-end. On s'arrête le temps d'une courte pause. Au retour, Sport Business avec Ray Lalonde.